Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à nous. Je vous annonce tout de suite qu'on n'a pas de point de presse aujourd'hui annoncé. Hein? On sait pas qu'est-ce qu'ils font ce monde-là. Sont-ils en train de lire des livres? J'espère que non, quelle perte de temps. Faudrait surtout pas qu'ils lisent des livres. Et que non, monsieur. Bon, ça donne le ton du spectacle d'aujourd'hui, la mauvaise foi. Au centre de ma démarche. Mais non, je blague, c'est pas vrai, vous savez. Commençons par le nombre de cas aujourd'hui. On reste au-dessus de la barre des 1000 avec 1072 cas et 19 malheureusement décès supplémentaires. On va aborder plusieurs sujets et on va avoir la députée indépendante Catherine Fournier qui a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale tout de suite après la période de questions sur l'objectification sexuelle des jeunes filles à l'école. Vous vous souvenez là, on a beaucoup parlé de ça la semaine dernière, une mobilisation qui a eu lieu dans des écoles secondaires, principalement à Montréal et aux alentours. Des jeunes garçons qui ont porté la jupe en guise de solidarité pour dénoncer, si on veut, les costumes super genrés dans les écoles secondaires. Là, moi, quand je vois passer les petites filles de 13-14 ans avec la jupette à moins 40 puis les petits collants, je me dis, pauvre elle, c'est vraiment poche qu'on leur impose encore le port de la jupe obligatoire en 2020. Je veux dire, porte-la si ça tente la jupe, porte-la pas si ça te tente pas. Il dénonçait ça, puis dénonçait aussi l'espèce de police des mœurs là, qui semble sévère encore dans nos écoles secondaires. Des jeunes filles qui ont fait une sortie pour dire, écoutez, là, on va pas jouer aux hypocrites sur la place publique. Là, il y a littéralement des directions d'école qui sont sorties avec leur tape à mesurer la semaine passée pour mesurer la longueur de nos jupes. Et il y a des jeunes filles qui ont été renvoyées chez elles. Tu sais, il y a on prive des jeunes femmes en 2020 de leur droit à l'éducation parce qu'elles ont l'épaule dénudée, parce qu'elles ont la jupe trop courte. On les prive et d'un autre côté, ben qu'est-ce qu'on voit dans la culture ambiante générale? Ben ce sont des filles dénudées tout le temps. Puis par ailleurs, petit aparté, j'ai écouté le film « Mignonne ». Vous savez, ça avait soulevé l'ire et l'opprobre de la bien-pensance nord-américaine parce que, oh my God, Netflix aurait objectifié le corps de jeunes filles de 11 ans sur l'affiche faisant la promotion du film. Ce que ça raconte, ce film-là, c'est l'histoire d'une petite fille qui est poignée littéralement entre deux cultures. Puis, s'entiche, si on veut, amicalement d'un groupe de jeunes filles, participe à un concours de danse et ce qu'ils font, ces petites filles-là, finalement, ben elles copient ce qu'elles voient dans les vidéoclips. Et ce qu'elles voient dans les vidéoclips, ben ce sont des filles pas très habillées et qui font des mouvements assez lascifs. Et bon, sur l'affiche qui avait été reprise par Netflix pour faire la promo du film, qui n'a rien à voir avec le film par ailleurs, là, c'est pas du tout ça le propos, ben on pouvait voir les filles dans des positions lascives. Puis c'est pas du tout ça le film. Pour vrai, là, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est un film très, très pertinent justement sur à quel point sexualiser le corps des jeunes filles de cet âge-là, c'est problématique. Puis à quel point aussi, quand tu as cet âge-là, t'es pas consciente de ce que tu fais à ce point-là. Là, tu t'adoptes, tu fais ce que tu vois sur les médias sociaux sans trop savoir dans quoi tu t'embarques. Puis évidemment, la culture en France, des quartiers très racisés et vraiment des cultures qui s'entrechoquent. Excellent film, vraiment, c'est à voir. On va revenir aussi sur cette histoire de copinage entre le gouvernement Justin Trudeau et une entreprise qui fabrique des ventilateurs médicaux. Une entreprise que possède un ex-député et organisateur libéral de longue date, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment surpris. Et on va poursuivre cette discussion autour du N-Word avec Varda Étienne. Plusieurs développements dans cette histoire, moi je dois vous l'avouer d'emblée, là, ma pensée évolue depuis le début de la semaine. Je trouve que parfois c'est peut-être un peu... C'est bien d'attendre avant de faire le point sur une situation qui dégénère par ailleurs en ce moment pour cette professeure à l'Université d'Ottawa, mais qui a tout de même enclenché une discussion qui est, selon moi, essentielle. Et bon, on va parler des menaces. Je vais l'aborder, entre autres, tantôt avec Nicole Gibeault. Cet homme qui a fait des menaces à l'endroit de Geneviève Guilbeault serait un récidiviste. Mais on va jaser de radicalisation aujourd'hui avec nos collaborateurs Alexandre Morinville-Ouellette et Léa Sreliski, parce que on le sait, là, les médias sociaux sont devenus un véritable terreau. C'est fertile à la radicalisation. Et j'écoutais hier en rattrapage l'émission Enquête de la semaine passée, entrevue menée par mon ex-collègue Brigitte Noël avec Alexis Cossette-Trudel. Et vraiment, depuis ce reportage-là, la journaliste est victime d'un backlash sur les médias sociaux. Elle a reçu des menaces Et vraiment, les menaces envers les personnalités publiques, les journalistes, les politiciens, de la part des adeptes de la théorie du complot et particulièrement du mouvement QAnon au Québec, sont de plus en plus, en fait, c'est presque rendu une habitude. Et ce qui est vraiment troublant dans le reportage d'enquête, c'est qu'on apprend qu'au Québec, le mouvement attire beaucoup de gens. Même qu'on est dans l'un des endroits du monde qui adhère le plus aux théories de QAnon. Et il y a même souvent des auditeurs qui m'envoient de drôles de messages, des messages que s'est amusé à décortiquer Alexandre Moranville-Ouellette. Mais tout de suite, on va se demander si les profs de la Ville de Montréal devraient avoir droit à cette fameuse prime COVID. Je parle tout de suite avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est la présidente de l'Alliance des professeurs et des professeures de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Bon, écoutez, vous faites cette sortie pour demander une prime COVID. Pourquoi?
Ben en fait, tout d'abord parce que c'est nos membres qui la demandent, ça c'est la première chose. Donc on a fait une assemblée générale, ça vient pas, c'est pas juste un élément qui vient du syndicat, mais bien des membres qui le représentent. Tout d'abord parce que il y a un contexte là, sanitaire dans lequel on travaille, vous le savez là, qui est différent de partout ailleurs. Là, actuellement, les profs travaillent dans des milieux avec beaucoup de monde dans le même local. On le sait que dans les commerces, dans les bâtisses, dans les édifices, n'importe où, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent accéder à l'endroit et en plus, ils doivent porter un couvre-visage. Dans les écoles, on a plusieurs classes où les élèves ne portent pas de couvre-visage, soit à cause de leur âge, soit certains à cause de, par exemple, de leur handicap ou de leur conditions de santé.
Ouais.
Donc, on a ce contexte-là. On a des profs dans des classes avec, vous le savez aussi comme moi, les écoles à Montréal, mal ventilées, des fenêtres qui s'ouvrent pas, parfois pas de fenêtres. Donc, au niveau sanitaire, il y a quand même un risque à l'enseigner actuellement. Puis, on le voit avec le nombre, nous, de cas qu'on voit.
Oui, puis c'est 26 élèves par classe en moyenne, donc 26 bulles familiales. Puis, il y a quand même des professeurs aussi qui se promènent d'école en école, Mme Beauvais-Saint-Pierre.
Tout à fait. On a des suppléants aussi qui se promènent d'école en école. Donc, il y a le contexte sanitaire qui est là, qui fait que on considère qu'on travaille dans un contexte qui est assez hors du commun, là, si on regarde toutes les autres mesures qui sont prises ailleurs. Et d'autre part, il y a au niveau de la tâche où la tâche est alourdie de façon exponentielle, je dirais, depuis le début de l'année scolaire. Et au niveau pédagogique, parce qu'on sait qu'on a des choses à rattraper pour l'an dernier, on a aussi à compenser pour, entre autres, les orthopédagogues. Bon, nous, on sait qu'on a certains orthopédagogues qui ont été réaffectés dans des classes. Donc, il y a des services qui ne sont plus donnés aux élèves. Donc, les titulaires doivent compenser pour ça aussi. Et à ça s'ajoute la désinfection. Là, on demande à des profs de désinfecter des locaux, désinfecter du matériel, parce que la pénurie à Montréal, au centre de service, elle est pas juste là pour les enseignants, elle est là dans à peu près tous les corps de métier, tu sais.
Moi, Madame Beauvais-Saint-Pierre, ce matin, j'espérais bien vous parler. J'avais vu des textes dans les journaux par rapport à cette demande, et j'ai appelé des professeurs de ma connaissance pour un peu sonder le terrain, là. Puis bon, justement, il me parlait de cette tâche supplémentaire-là. Me parlait, puis corrigez-moi si je me trompe, là, que ça leur prend quasiment une heure par jour, sinon plus. Juste le torchage, là, ce qu'il faut frotter, les précautions, les objets qu'il faut mettre en quarantaine parce que ça a été touché par des enfants. Est-ce que c'est des chiffres que vous entendez souvent?
Oui, c'est ce genre de chiffre-là qu'on entend. Puis ça dépend aussi de du titulaire ou du prof du secteur. Bon, si on prend par exemple, tu sais, je pense que la tâche est probablement la pire, c'est celle des spécialistes là, actuellement, parce
Pourquoi?
Qu'il y en a certains qui ont, ben certains ont conservé leur local. Donc, bon, on sait que les élèves techniquement restent dans leur local, mais si on a par exemple un prof de musique qui a tout son matériel dans un local, il peut pas se promener avec tout le local. Donc, on a, il y a eu une dérogation pour ce genre de contexte-là, là, qui était prévu aux règles ministérielles, là. Par contre, ça implique que chaque fois que les élèves changent, donc s'il y a un changement d'élève, il faut que la désinfection se fasse donc de toutes les surfaces qui sont touchées par les élèves, donc qui pourraient possiblement contaminer. Mais là, il faut comprendre que des fois, entre deux groupes, des fois, le battement est de 2 minutes là, au primaire. Donc, il y a comme il y a du temps qu'on doit récupérer ailleurs, qu'on doit essayer c'est ça, faut gratter dans le temps, mais tout ce temps-là, ben contrairement à ce que le ministre a répondu dans l'article de journal, non, notre temps supplémentaire n'est pas rémunéré.
Ben c'était ma prochaine question parce que là je me disais bon, si vous avez de l'argent pour compenser.
Ben en fait c'est ça, on n'a pas d'argent pour compenser, on n'est pas payé en temps supplémentaire.
Mais je comprends pas pourquoi il dit ça le ministre Roberge alors.
Ben, c'est une excellente question. En fait, le seul élément pour lequel on est rémunéré, si je parle du primaire et du secondaire le plus particulièrement, c'est pour ce qu'on appelle le remplacement d'urgence. Donc, le remplacement d'urgence, quand on doit aller pendant une période où on était supposé faire de la tâche de nature personnelle. Là, si on
OK,
était,
mais
exemple,
le travail en plus, là, tout ce qui vous est demandé en ce moment, là, de porter plusieurs chapeaux, d'être à la fois un orthopédagogue, un concierge, un prof, un parent, ça, c'est pas payé.
OK. Non, ce n'est pas payé.
Bon, il y a ça, puis il y a aussi, je pense, un flou artistique aussi autour des élèves, pas qui sont en enseignement en ligne, là, mais qui sont chez eux en attendant d'avoir un résultat de test COVID. Là, ça aussi, ça demande, je crois, du travail supplémentaire pour vos effectifs.
Ça, c'est exactement ça. C'est l'élément que j'aurais pu nommer aussi tout à l'heure. T'sais, on a des collègues qui nous disaient depuis le début de l'année, j'ai eu aucune journée où tous mes élèves étaient présents. Parce qu'on sait que quand un élève a des symptômes, ben, il est en AIV, il doit rester à la maison, voir comment ça évolue. Des fois, c'est parce que le frère a eu un diagnostic. Il y a toutes sortes de cas qui peuvent faire que l'enfant reste à la maison. Et c'est pas prévu dans ce que le ministre a appelé les seuils minimaux d'enseignement. Donc, c'est pas prévu qu'il y ait un enseignement qui se fasse de manière virtuelle par un autre prof. Ouais. Donc, c'est le titulaire aussi qui doit faire le suivi. Là, comment c'est libellé? C'est très, très flou. C'est effectuer un suivi, mais là, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, puis suivi pour un, c'est pas nécessairement suivi pour l'autre. Peut avoir différentes définitions puis différentes façons de le faire.
Exactement. Donc, il y a aussi ça. Puis bon, il y a des parents qui peuvent aussi être insatisfaits des fois du suivi qui est effectué, mais il faut comprendre que le prof fait sa semaine de travail régulière. Puis je dis régulière entre guillemets parce qu'avec tout ce que je vous ai dit qui était déjà ajouté tantôt.
Oui, puis avant... Avant la pandémie, Mme Beauvais-Saint-Pierre, c'était déjà une discussion qu'on avait, là, la surcharge de travail des profs.
Ben voilà. Fait que, tu sais, là, on vivait avec une surcharge. On est en égo, on essaie de se battre contre cette surcharge-là. Mmh. Là, on ajoute à ça la pandémie, on ajoute à ça le suivi des élèves, bon, dû aussi à la pandémie. Les profs sont complètement à bout de souffle. J'ai toujours dit que les profs étaient à bout de souffle depuis que je suis élue parce que c'est ce que je constate. Mais d'habitude, on est à bout de souffle. Là. T'sais, avant Noël, là, on sent qu'une chance que les vacances arrivent. Mmh. Mais là, on le sent là.
Ben oui, puis en même temps, vous êtes, je comparais ça tantôt. J'avais la discussion avec Benoît Dutrisac sur ce sujet. Les préposés aux bénéficiaires ont droit à une prime pour des raisons similaires. Vous occupez, grosso modo, vous prenez soin des plus vulnérables, vous exposez à un risque, il y a une charge supplémentaire. Mais néanmoins... Tu sais, ce matin, je vous disais, j'ai parlé à des profs, puis au départ, ils étaient très, très réticents à me parler parce qu'ils ont peur des répercussions, ils veulent pas être nommés, ils veulent pas nommer l'école dans laquelle ils travaillent. Puis, tu sais, quand on parlait de la prime, ce qui est revenu là à tous les profs à qui j'ai parlé, c'est la peur que ça soit mal perçu par la population, parce qu'on est quand même dans cette idée largement répandue au sein de la population que les profs, ben, ils gagnent assez, puis ils en ont des belles conditions de travail. Après tout, ils ont 2 mois de vacances l'été.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que la prime doit venir aussi avec un support du gouvernement, puis je parle pas juste du support monétaire, je parle du support moral, tu sais. On a besoin d'avoir un ministre aussi, là, qui va nous dire qu'il comprend que notre travail est vraiment très difficile actuellement, qui était déjà difficile en temps normal, et que là, on travaille dans des conditions exceptionnelles.
Il reconnaît pas ça?
Ben, en tout cas, s'il reconnaît, il garde bien pour lui. Donc, non, c'est pas le message qu'on reçoit. Donc, tu sais, quand la prime est arrivée dans le milieu de la santé, là, ça n'a pas été mal perçu parce que tout le monde le savait à quel point la tâche était lourde actuellement.
Oui,
parce
puis c'est la santé, ça frappe plus l'imaginaire peut-être que des professeurs.
Oui, puis tu sais, c'est vraiment pas dans l'idée non plus de faire une comparaison. Il y a personne qui est allé dire dans notre assemblée générale, nous c'est bien pire que les infirmières.
Non,
évidemment non, c'est pas du tout ça. On est tout à fait conscient qu'il y en a d'autres aussi qui ont des tâches très difficiles. Bon, il y en a qui me disaient, tout à l'heure on me disait, oui, mais là il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont au chômage. Ça, on est aussi tout à fait conscient et c'est des batailles. Bon, on est un syndicat aussi, on a des valeurs, on prône des valeurs sociales, donc on voudrait que tout le monde aussi ne soit pas, que personne ne soit dans cet état-là actuellement.
Oui, bien, Mme Beauvais-Saint-Pierre, parlant de tout le monde, là, est-ce que ça ne devrait pas donner cette prime-là à tous les enseignants les enseignants de la province?
Parce que en fait, c'est ça notre demande. Notre demande n'est pas ciblée. Demande vient de nous, vient de Montréal.
Ouais.
Parce que bon, c'est les profs de Montréal qui l'avons voté, mais dans notre demande, comment elle est libellée, c'est vraiment que les profs aient accès à une prime COVID. C'est tout.
Tous les profs.
On ne demande pas que ce soit uniquement à Montréal, parce que oui, on est conscient que c'est difficile pour tout le monde pour des raisons différentes. Mais bon, moi, je le ramène quand même. On a quand même un contexte qui, entre autres au niveau sanitaire, nous, nos écoles qui débordent, le manque d'espace fait que...
Ben, on a une pénurie aussi, là. En ce moment, il y a bien des enseignants à la retraite qui veulent pas revenir. Puis on les comprend.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment tout un contexte. Et bon, tu sais, un des éléments nous qu'on demande aussi au ministre, c'est de venir voir nos écoles. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le décrit pour plusieurs situations. Mais là, depuis le début de cette crise-là, là, c'est ce qui nous frappe à chaque fois, c'est le décalage avec le milieu montréalais et l'impression que les décisions sont pas prises en fonction de tous les milieux qui existent. Puis nous, nos milieux sont particuliers. C'est
l'invitation,
ça, la réalité.
L'invitation est lancée. Elle est aussi lancée pour venir ici à cette émission. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, merci, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeures de Montréal.